d'introduction. Merci à vous de vous être déplacés ce soir à la Grange Nabata. C'est pas évident d'amener du monde ici, et surtout pour les conférences. C'est pas très populaire, les conférences, par les temps qui courent. Mais bon, on garde toujours un espoir et c'est confirmé. Il y a quand même certaines personnes qui s'intéressent à la chose. Voilà, merci beaucoup d'être venus. Et donc, l'association L'Ancise Autrefois a été fondée en 2009. Et c'est notre quatrième exposition, cette année sur le thème des guerres mondiales. Et dans le cadre de cette exposition, nous avons tenu à associer un partenaire local, c'est-à-dire l'association Genève Humanitaire, parce que nous aimons beaucoup les synergies avec des associations similaires à la nôtre, et encore plus si elles sont lancéennes. Et nous sommes honorés, charmés d'avoir M. Roger Durand qui a accepté de nous parler ce soir. Alors, M. Roger Durand, à vous la parole.
Merci madame. Alors, tout d'abord, je tiens à vous remercier d'avoir fait le déplacement, remercier Carina Lorenzini de nous donner l'occasion de participer, et puis aussi remercier Madame Dirho, qui est donc l'archiviste de la ville de Nancy, qui m'a ouvert les registres du conseil municipal, qui sont extrêmement intéressants. Donc, l'association Genève Humanitaire est un centre de recherche historique qui essaye d'étudier et de faire connaître la genèse et le développement de la vocation humanitaire de Genève au service du monde entier. Alors, naturellement que la conférence, que le sujet que m'a proposé Carina est exactement dehors de nos terres, puisque c'est l'accueil des réfugiés en Suisse. Et je suis forcé de vous dire que je vais peu traiter ce sujet et essayer d'élargir la question humanitaire, tout d'abord parce que ce n'est pas notre domaine, et puis deuxièmement parce qu'on a très peu de documents. Et les documents sont tout à fait dispersés et disparates. Alors, tout d'abord, si vous avez des questions, si quelque chose que je dis vous étonne, vous surprend ou nécessite une explication complémentaire, vous pouvez très bien m'interrompre. Au contraire, j'aime bien qu'on pose des questions, ça rend peut-être l'échange plus vivant. Et d'autre part, nous avons prévu un moment d'échange à la suite de l'exposé. Alors, mon exposé aura 7 parties de grandeur différente. L'accueil, une tradition genevoise, quelques rappels sur la Première Guerre mondiale, son éclatement et ses tout débuts, la situation de Genève au début de la guerre, l'humanitaire à Genève, le CICR dans la guerre, l'aide aux victimes, et puis, si j'ose dire, le cas de Nancy, le peu que nous savons sur Nancy par rapport à cette problématique. Alors, parlons de la tradition d'accueil à Genève. Ce sont des banalités, mais il faut quand même le rappeler. Depuis sa création au XVIe siècle, en 1535, la République de Genève a tout de suite une pratique et une tradition de l'accueil, puisque vous savez que dès le milieu du XVIe siècle, arrivent à Genève des réfugiés qu'on appelle de religion, des Huguenots, qui fuient soit l'Italie, soit la France, parce que ces pays n'acceptent pas deux religions sur leur terre. Et cet afflux de réfugiés est en nombre considérable au XVIe siècle et autour des années 1686-87, après la révocation de l'édit de Nantes. Et alors là, Genève, qui est une forteresse militaire, vous savez, entourée par des murailles tellement considérables qu'elles sont plus importantes que la surface habitable de la ville. On oublie que Genève, c'est une forteresse, jusqu'en 1850, quand on démolit ces murailles. Alors, cet afflux de réfugiés provoque une élévation des bâtiments, et puis, surtout, un tri. On garde, c'est un peu trivial de le dire ainsi, mais on garde les réfugiés qui peuvent être utiles à l'économie ou au rayonnement de Genève, exemple les imprimeurs, les horlogers, et puis les autres, on les dirige soit vers la Suisse alémanique, soit même vers l'Allemagne, vers les Pays-Bas. Donc on pourrait quasiment dire que Genève, à ce moment-là, est une sorte de gare de triage, mais les réfugiés qui arrivent sont des des co-religionnaires, ce sont des Huguenots, et cet afflux de réfugiés va durer jusqu'au XVIIIe siècle, jusque dans les années 1760. Alors ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'on fait subir bien souvent un examen d'entrée à ces réfugiés, en leur demandant par exemple de réciter Notre Père en français, on leur pose quelques questions sur la Bible, bref, on veut être sûr que ce sont des, en guillemets, vrais Huguenots. Donc là, il y a un souci qualitatif pour l'accueil du réfugié. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant de voir que, en tout cas au XVIIIe siècle, souvent ces réfugiés sont dirigés vers la campagne. On ne les garde pas en ville. La campagne étant moins sûre, puisque vous savez que c'est que depuis 1754 environ que les frontières sont vraiment définies, par exemple, avec le roi de Sardaigne, qui est donc notre voisin. Au XIXe siècle, alors on a d'autres réfugiés. Par exemple, des révolutionnaires. Puisque vous le savez, depuis 1846, Genève a une vraie démocratie, si j'ose dire. Et la Suisse depuis 1848. Et dans l'Europe, c'est la seule démocratie complète. Et Genève est par exemple connue pour sa liberté d'expression, sa liberté de réunion, etc. Et alors, afflux des révolutionnaires, surtout ceux qui ont échoué. Je vous rappelle que toutes les révolutions de 48 échouent, que ce soit en Italie, en Allemagne, en France. Et alors, on a des réfugiés politiques qui arrivent. Par exemple, mon arrière-grand-père, qui était un Attilio Rumcaldieri, était un révolutionnaire italien qui avait dû fuir parce qu'il avait fait de la prison et il s'est marié. J'ai donc un petit peu d'origine d'un réfugié politique, typiquement. Il était peintre et il est devenu photographe. À l'époque, on était tout le temps peintre et photographe parce que les photographies étaient retouchées au pinceau. C'est un détail. Mais donc on a des réfugiés politiques, des Polonais, parce qu'il y a la malheureuse Pologne en 1830, en 1867, connaît des tentatives d'indépendance qui sont réprimées par la Russie. Et on connaît en tout cas un nom, c'est un certain monsieur Patek, n'est-ce pas, qui s'était allié à un autre réfugié français, à monsieur Philippe, qui ont fait la célèbre manufacture Patek et Philippe. C'est un réfugié politique polonais. On a une autre tradition, c'est les militaires réfugiés, ce qu'on appelle des internés. En 1871, le 1er février, arrivent en Suisse, par le Jura, 70 à 80 000 soldats français qui demandent l'internement. Ce sont des réfugiés. Et à Genève, on en accueille un certain nombre et on met à disposition des lieux publics. Il y a une fonction accueillante. À peu près tous les cantons, sauf le Tessin, ont reçu un certain nombre de ces soldats qu'on appelait les Bourbakis, du nom de leur général. Et puis, en 71, toujours, mais à la fin du printemps, il y a la fameuse Commune à Paris, donc une révolution dure, on pourrait dire, qui est réprimée de façon extrêmement sévère. Et là, on a de nouveau des réfugiés politiques qui arrivent à Genève et en Suisse romande. Le meilleur exemple, c'est le peintre Courbet qui s'établira donc au bout du lac, mais du côté de Vevey-Villeneuve. Puis fin du 19e, on accueille des réfugiés russes, dont certains sont très connus. Si je vous dis Lénine, Lénine était un réfugié politique qui était actif à Genève. On en a d'autres qui sont un tout petit peu moins reluisants. Il y a un fameux Lukini, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est celui qui a poignardé à mort l'impératrice Elisabeth d'Autriche, appelée Sissi. C'est aussi un cas. Donc, il y a une très longue tradition, mais au 19e, elle est quantitativement moins lourde. Et Genève est en pleine expansion économique. Alors, si nous situons maintenant le début de la guerre, donc en début août 1914, la Première Guerre mondiale éclate, tout le monde s'attend à une guerre rapide, on va la fleur au fusil en direction de Berlin ou en direction de Paris, et personne ne se rend compte qu'on va avoir presque 5 années de cataclysme. Le choc est colossal et il est immédiat. Et si on imagine que pendant les premiers mois de guerre, l'effort de guerre des Français qui veulent récupérer l'Alsace qui avait été perdu après la guerre de 70-71, se solde par un massacre de centaines de milliers de soldats, et en vain. Mais la conséquence, c'est que l'Alsace est ravagée par la guerre, et les Alsaciens essayent de s'enfuir, et un certain nombre arrivent à Genève. On se rappelle aussi que l'Allemagne avait, dans son plan de guerre, prévu d'écraser la France en quelques semaines pour ensuite pouvoir se retourner contre la Russie, qui mettait beaucoup plus longtemps à mobiliser ses armées. Alors, comme les Allemands savaient que la frontière française était très solidement défendue, que les Suisses avaient aussi une armée qui était assez forte, vous savez qu'ils ont tenté de passer par la Belgique. Et l'invasion de la Belgique par les armées allemandes a été une catastrophe humanitaire aussi. La Belgique a essayé de résister, elle s'est fait écraser en quelques semaines, mais le comportement de l'armée envahissante a été épouvantable. Les populations civiles ont énormément souffert, il y a eu beaucoup de représailles contre les civils, de sorte qu'on a eu un grand nombre de Belges qui ont essayé de se sauver. Je crois que 90%, 95% du territoire belge était occupé par l'Allemagne pendant la guerre. Donc, on a donc dès les premiers mois de la guerre de 14, un afflux de réfugiés, ce sont des civils, ce sont des familles, mais il y a aussi des militaires, ce qui, j'ai pas réussi très bien à comprendre pourquoi, mais peut-être que le professeur Antoine Fleury, qui nous fait l'honneur d'être ici aujourd'hui, pourra nous expliquer, parce qu'on a la chance d'avoir un historien de tout grand renom. Oui, c'est sûr qu'il est parmi nous, je suis très honoré qu'il soit là. Et donc, on a à Genève une arrivée assez stupéfiante de réfugiés. Alors, c'est pour nous maintenant l'occasion de voir notre troisième partie, la situation de Genève au début de la guerre, situation à Nancy tout à fait assimilable. Alors, il faut se rappeler que la fin du 19e jusqu'en 1914, c'est une période d'expansion magnifique pour Genève. On construit, on se développe, il y a une économie extrêmement florissante. Alors, au moment où la guerre éclate, c'est la stupéfaction. Ça veut dire que, tout d'abord, un grand nombre de Français, on a presque 50% d'étrangers à Genève en 1914. Un grand nombre de Français vont repartir pour servir, mais les Italiens aussi, c'est surtout des Français, des Italiens qu'on a. Donc on a un reflux de population très importante, mais on a surtout un reflux économique, parce que l'industrie du tourisme était déjà très importante pour Genève, l'industrie de luxe, l'horlogerie par exemple, et bien ce sont des secteurs qui s'effondrent et immédiatement. Alors si on est bien placé pour le savoir, puisque l'Institut Axius, qui était donc au château, l'actuelle mairie, et bien il n'a plus de pensionnaires. Or c'était tous des pensionnaires de luxe, c'était des gens qui apportaient énormément de devises à l'économie genevoise. Donc on a déjà deux facteurs d'appauvrissement, puis on a un troisième facteur qu'on a tendance à oublier, c'est la mobilisation générale. Et les hommes, à l'époque, qui sont appelés sous les drapeaux, ils ne reçoivent pas de compensation. C'est-à-dire qu'un ouvrier, un paysan qui part des mois au service de l'armée, il laisse une famille sans ressources. Vous imaginez quel choc simplement financier, économique, ça peut représenter pour une population. Et la commune de Nancy, à l'époque, c'est plutôt un village où les activités agricoles sont encore importantes. Alors, on ne va pas parler de toutes les conséquences sur la répartition sociale du travail, etc., mais pour se rendre compte que la situation économique de la population en Suisse, à Genève aussi, au début de la guerre, est une situation qui est précarisée. Naturellement que par rapport aux civils des pays en guerre, il n'y a aucune comparaison possible. On est vraiment, on échappe aux catastrophes et aux désastres, mais on tombe quand même, dans un grand nombre de cas, dans la précarité. On aura l'occasion de le voir. Et alors c'est aussi pour moi l'occasion de vous dire que si vous ne l'avez pas encore fait, ça vaut la peine d'aller visiter, regarder l'exposition que Madame Lorenzini a montée avec Nancy d'autrefois. Elle a trouvé des documents qui sont captivants et Donc cet étage, c'est la Première Guerre mondiale, le rez-de-chaussée, c'est la Seconde Guerre mondiale, ça vaut la peine d'aller voir les panneaux, etc. Et parce que visuellement et des textes, on apprend beaucoup sur ce contexte général. Alors, j'aimerais maintenant arriver à la situation ou au dispositif humanitaire à Genève à cette époque. Alors, rappelons, il est important de rappeler qu'on a une Croix-Rouge genevoise. Mais elle, bien que ce soit la patrie d'Henri Dunant, la Croix-Rouge genevoise ne devient vraiment effective que dans les années 1889-1890. Hein. Avant, elle ne prend pas. Ça reste une Croix-Rouge hautement élitaire. Ce sont les dames et les messieurs de la bonne société qui forment un comité de dames de la Croix-Rouge et un comité de messieurs de la Croix-Rouge. Je vous en prie, on est séparés. Hein. Et alors, les dames s'occupent notamment d'un service tout à fait nouveau à l'époque, c'est les infirmières à domicile, ce qui ne se faisait pas du tout. Et là, vraiment, elles créent quelque chose. Les Samaritains, qui sont encore un troisième organisme, eux s'occupent notamment des cours, comme aujourd'hui, c'est une très longue tradition. Et puis, les messieurs, eux, ben, ils se préparent à la guerre. C'est-à-dire qu'ils répondent à la vocation numéro un de la Croix-Rouge internationale, c'est-à-dire de se préparer à aider les armées en campagne. Je vous rappelle qu'on est toujours sous le règne de la première convention de Genève, qui était donc de 1864, révisée en 1906, mais qui ne protège que les militaires blessés, avec un dispositif nouveau dont je vous parlerai concernant les prisonniers de guerre. Donc, côté Croix-Rouge genevoise, on n'est pas du tout préparé aux prestations, aux services à offrir pour l'accueil des réfugiés. Les services de l'État à l'époque sont véritablement très très limités et on n'a aucun dispositif analogue, que ce soit à Genève ou en Suisse. Rappelons aussi que la Croix-Rouge suisse, en 1914, et ce sera valable jusqu'à la fin de la guerre, est un service auxiliaire de l'armée. Au moment de la mobilisation générale, le président de la Croix-Rouge suisse présente sa démission au Conseil fédéral et le Conseil fédéral nomme le médecin-chef de l'armée patron de la Croix-Rouge suisse. La Croix-Rouge suisse est donc un organe de l'armée suisse, ce qui par rapport au principe d'indépendance nous fait sourire aujourd'hui, mais c'était la réalité. J'insiste parce qu'aujourd'hui, la Croix-Rouge a beaucoup d'actions pour la population civile, même un grand nombre est magnifique, ça n'existait pas à l'époque. Donc on est dans une terre complètement différente. Alors, la grande institution Croix-Rouge de l'époque, c'est le Comité international de la Croix-Rouge, fondé en 1863 par Dunant, Moynier, Dufour, Appia et Monnoir. Alors, de nouveau, il n'y a aucune comparaison. Aujourd'hui, le budget du CICR avoisine les 2 milliards de francs ou de dollars, c'est à peu près la même chose. À l'époque, on a, pour 1913, un budget de 160 000 francs. Bon, alors 160 000 francs, il faut au moins le multiplier par 10 ou par 15, mais ça reste un budget minuscule. Et le CICR, c'est une réunion d'une dizaine de messieurs de la toute bonne société genevoise qui sont tous parents les uns avec les autres. Et par exemple, le président, Gustave Adore, à l'époque, il a 69 ans. Le vice-président, Édouard Naville, il en a 68. Donc ce sont des personnalités considérables, mais qui sont plus dans la fleur de l'âge. Soulignons que, par exemple, Gustave Adore, il est entré au Comité international en 1870. Il a 44 ans d'activité au Comité international au début de la guerre. Mais cette activité-là, elle est, on pourrait dire, essentiellement juridique. La mission du CICR, c'est de faire connaître la Convention de Genève et de la faire respecter. C'est d'accepter, de poser des conditions, de contrôler les nouvelles sociétés nationales. C'est d'organiser des conférences internationales de la Croix-Rouge où on va débattre des problèmes d'actualité. C'est une activité essentiellement juridique. On a quelques missions qui sont envoyées dans la guerre des Balkans en 1912-1913, pour examiner comment mettre au point des dispositifs sanitaires, et puis on commence à s'intéresser aux prisonniers de guerre. Alors ça, c'est nouveau. Depuis 1912, la conférence de Washington donne une mission au CICR. En cas de guerre, le CICR veillera à stimuler dans chaque pays la création de comités spéciaux qui s'occuperont des prisonniers de guerre. C'est encore un dispositif vraiment léger et fragile. Et il n'y a pas d'accord international qui oblige les États par rapport aux prisonniers de guerre. Oui, c'est important de souligner que le CICR n'a pas pour mission des actions humanitaires. Les actions humanitaires, elles sont réservées aux sociétés nationales. C'est véritablement une sorte de chasse gardée. Ce qui est aussi quelque chose qui nous étonne aujourd'hui quand on sait les hôpitaux que le CICR traite, les rapatriements de famille, etc. etc. Rappelons aussi que le CICR, à l'époque, n'a pas de siège. On se réunit chez le président, au 8 rue de l'Athénée, un magnifique hôtel particulier. On a un petit musée, au 3 rue de l'Athénée, mais c'est un minuscule musée, c'est rien d'autre. Il n'y a aucune commune mesure entre le géant, on pourrait dire, d'aujourd'hui, et cet organe qui était... Il était connu dans les milieux juridiques, il était connu dans les milieux diplomatiques, mais il n'était pas connu dans la population. Et là, la guerre va complètement modifier les choses. Et j'en arrive maintenant à la situation donc, du CICR dans la guerre, qui va d'un côté réagir avec une efficacité incroyable. La guerre commence au début août, le 15 août, le CICR lance déjà un appel aux sociétés nationales pour des dons, donc aussi aux sociétés nationales non belligérantes, et puis pour la création de ces fameuses commissions pour les prisonniers de guerre. Parce que, disons que, moi je n'ai pas connu de situation de guerre, je pense que vous non plus. On oublie qu'au moment où deux pays sont en guerre, il n'y a plus de relations du tout entre eux. Et à l'époque, je vous rappelle, téléphone embryonnaire et autrement la correspondance, rien d'autre. Donc, les gens sont complètement isolés les uns des autres. Et il n'y a rien de pire que l'incertitude sur un mari, sur un frère, sur un fils qui a disparu, ou sur des familles dont on a perdu le contact, puisque je vous rappelle que des centaines de milliers d'habitants d'Alsace, de Lorraine et des départements du nord de la France, par exemple, sont coupés de leur pays. Du moment qu'ils sont en zone occupée, c'est l'administration militaire allemande qui gère le pays et il y a une interdiction complète de toute correspondance. Donc c'est un mur, c'est un isolement et ce sont des inquiétudes absolument terribles. Et c'est là que le CICR donne pleinement sa mesure. C'est-à-dire qu'il crée l'Agence internationale des prisonniers de guerre qui sera en premier dans le minuscule musée du 3 Athénée. Après, et c'est assez touchant, Gustave Adolphe ouvre son deuxième étage pour l'agence, qui est au 8. C'est la deuxième adresse. C'est au 8 rue de l'Athénée. Je pense qu'il doit chasser les bonnes ou je ne sais pas qui. Et puis, on installe là les bureaux de l'agence. Puis, c'est tout de suite trop petit. On négocie avec la ville et on peut avoir le musée gratuit. Donc, on improvise à toute vitesse. C'est tout à fait étonnant. Et là, on peut vraiment dire que Gustave Adolphe a fait preuve d'une capacité d'adaptation absolument phénoménale, passant d'une société de type juridique à une institution opérationnelle d'envergure colossale, puisqu'on va compter jusqu'à 1200 volontaires qui vont travailler pour l'Agence des prisonniers de guerre, principalement au musée Rath, mais aussi au palais Hénard et dans d'autres locaux à la coraterie ensuite. Alors, quelle est la fonction de cette agence? Elle est relativement simple. C'est demander aux belligérants d'envoyer les listes de prisonniers ou d'ennemis qui sont morts sur leur territoire. Et puis, on classe tous ces noms, et puis en même temps, on reçoit des demandes de civils qui veulent être informés sur qu'est-ce que mon père, mon frère, mon ami est devenu. Il a disparu le 25 août, j'ai plus de nouvelles, etc. Et il faut savoir qu'au point de vue quantitatif, on arrive dans des chiffres hallucinants. Certains jours de décembre, on a jusqu'à 30 000 lettres en une journée qui arrivent à l'agence des prisonniers de guerre. Vous imaginez, trier 30 000 lettres, et c'est chaque fois un appel au secours. Et c'est chaque fois une situation humaine absolument terrible. Et c'est principalement par rapport à des prisonniers, mais c'est aussi beaucoup pour des civils. Parce que les gens sont tout de suite rendus compte que on pourrait, grâce au service de l'agence, savoir où a disparu la mère de famille ou bien des enfants. Il y a eu pas mal de familles disloquées en Belgique dans l'été 14. Alors, il y a des efforts titanesques pour essayer de faire ce qu'on appelle les regroupements de familles. Mais pour ça, il faut, on reçoit une lettre, on doit écrire à la puissance belligérante adverse. Là, on doit passer, la lettre passe par les organes de contrôle qui sont impitoyables. Ensuite, l'organe de contrôle envoie à la Croix-Rouge allemande ou à la Croix-Rouge de Francfort, ça dépend encore comment on est organisé. Celle-ci va mener une recherche. S'il y a des informations, elle les renvoie à son organe de contrôle. L'organe de contrôle les envoie à l'agence des prisonniers de guerre. Il faut traduire tous ces trucs-là, les renvoyer ensuite à la famille qui a écrit depuis la France ou depuis le Canada ou depuis la Nouvelle-Zélande ou depuis l'Afrique du Sud, parce qu'on va avoir des demandes qui arrivent de tous les pays engagés dans la guerre. Vous savez que ce qu'on appelle les colonies aujourd'hui, mais des dominions principalement de la Grande-Bretagne et de la France, étaient en guerre aussi. On a des soldats sénégalais, camerounais qui se battent sur le front occidental. Et donc, il y a là un afflux de demandes qui sont souvent très compliquées pour les langues, parce qu'il faut chaque fois retraduire. Et puis aussi pour qui sont très compliquées pour les identités. Parce que les gens ne se rendent pas compte qu'il ne suffit pas de donner un nom et un prénom. Un Jean-Martin, je crois qu'il y en a 300 de Jean-Martin. Comment est-ce que vous voulez les distinguer ? Or, on ne peut pas faire joujou et puis se dire ouais, « on tente celui-là » parce qu'on va tromper des gens, etc., etc. Donc là, il y a un travail extraordinaire qui se fait, aussi en faveur des civils, et ça, c'est la nouveauté. C'est-à-dire que le docteur Frédéric Ferrière convainc ses collègues de créer une section des civils. Et alors là, on est dans notre sujet, n'est-ce pas ? Et c'était tout à fait nouveau, et ça a posé un énorme cas de conscience aux décideurs du CICR, qui étaient... Ils étaient un peu scotchés, si l'on peut dire, sur la Convention de Genève. Et là, ils en sortent manifestement, mais ils s'adaptent à une situation nouvelle. Et c'est un peu ce qui a fait le génie et la grandeur, ce qui fait encore aujourd'hui les qualités du CICR, c'est de savoir s'adapter à une situation nouvelle, même si le droit ne l'y autorise pas. L'action va précéder le droit. C'est un des principes non dits de l'activité humanitaire du CICR. Alors, nous avons... on va déjà vous montrer quelques images. Vous les connaissez, elles sont très connues, mais enfin, alors si ça marche... Alors voilà, là nous sommes à Genève et nous avons à la gare et nous avons une arrivée assez cosmopolite, n'est-ce pas ? Puisque nous avons des soldats français, nous avons des civils derrière et je dois vous dire que je n'ai pas encore identifié la qualité de ces soldats français. On en a pas mal. Alors, est-ce que ce sont des internés ? Est-ce que ce ne sont pas des grands blessés ? On en parlera tout à l'heure. Et on en a pas mal. Regardez ici, manifestement, on a passage en revue et je ne crois pas que ce soit des infirmiers, mais on a des soldats français qui sont internés chez nous avec des officiers supérieurs et d'autres, ce cortège insolite. Et vous allez voir pourquoi il est insolite. C'est en fait un cortège qui est lié à un enterrement. Et donc ça veut dire que c'était des hommes qui résidaient à Genève. Alors là, la vue n'est pas très bonne, mais elle est très intéressante parce que c'est véritablement une photo prise en instantané. On est à la gare et c'est manifestement l'accueil d'une dame qui descend du train, donc comme réfugiée. Et vous voyez que on n'a pas encore de professionnel, on est vraiment dans l'improvisation. Et puis alors ça, ce sont les images mythiques que vous avez certainement déjà vues et que vous pourrez revoir aussi sur les panneaux de Nancy d'autrefois. Là, ce sont donc des rapatriés français à Genève. Alors je pense que là, il s'agit de Français qui s'étaient réfugiés à Genève, qui ont été hébergés un certain temps, notamment dans les écoles, à la rue de Berne notamment, et qui maintenant reprennent le train pour être accueillis en France dans des zones qui échappent à la guerre. La présence des paquets, notamment, fait penser qu'il s'agit en fait, du retour, de l'évacuation. On a là donc un détail. Et puis, on a là une très belle image où on voit ce soldat suisse qui tient une petite fillette dans ses bras. On peut penser que ce sont des photos instantanées. Je ne crois pas que ce soit des photos posées comme on en a tant de propagande pendant la guerre. Alors, il y a eu de très nombreuses photos sur ces internés ou ces Français qui ont beaucoup ému la population. Voilà, et puis alors, là, nous avons Gustave Ador à l'agence, devant ses papiers. C'est pas, disons que ça reflète tout à fait son activité, le nombre de lettres et de séances que Gustave Ador a dû prendre en charge, c'est stupéfiant. Plus toute l'organisation du travail, l'engagement de secrétaire professionnel. Le CICR à l'époque n'avait qu'un professionnel au début de la guerre. Et alors que maintenant, on va engager des secrétaires professionnels. Et ce qui est intéressant, c'est que si la secrétaire vient avec sa machine, on lui donne 60 francs de plus par mois. Parce que autrement, la location d'une machine coûtait 60 francs. Le salaire d'un instituteur à la même époque, c'est 300 francs par an. 300 francs par an, par an. Ils étaient probablement nourris et logés. On a encore, justement dans les procès-verbaux de Nancy, on engage deux sous-régentes, c'est encore ces ordres de grandeur-là. Mais je pense qu'ils sont nourris et logés, mais ça nous montre l'ordre de grandeur et que les machines à écrire qui ne sont pas électriques, c'était encore des grosses Remington où il faut vraiment se casser les ongles, c'était, on les louait 60 francs par mois. Alors, c'est impressionnant. Et alors là, vous avez Frédéric Ferrière, qui est donc, on pourrait dire, l'homme de la vocation humanitaire pour les civils de la Croix-Rouge internationale. Et il a fait franchir une étape capitale qui, disons, qui nous concerne directement. Je ne sais pas si la suivante est encore... Oui, je n'ai pas résisté à celle-ci. Parce que, il y a naturellement beaucoup de dames, puisque tout le monde est volontaire. Hein, et alors, les dames ont un chapeau. C'est très, très impressionnant. Les jeunes filles, non. C'est, on pourrait dire, quasiment un statut social. Mais en plus de ça, il faisait un froid de canard. Parce que d'après ce que j'ai compris, le musée Rat était, sinon chauffé, quasiment pas chauffé. Alors, bon, là, on n'est pas en hiver, hein, mais elle a quand même un très beau chapeau. Disons, tout était improvisé, naturellement. Voilà, je ne sais pas, oui. Et là, alors, c'est aussi une de ces vues mythiques prises, je crois, en 1915, avec l'ensemble des prisonniers, des volontaires, et au centre, assis, les messieurs du comité international. Cette image est emblématique parce qu'elle va symboliser Genève aux yeux du monde entier. Ça, on oublie assez que jusqu'en 1914, le CICR, c'est le domaine des juristes et des diplomates. Et depuis la guerre de 14-18, le CICR devient une institution planétaire. Et c'est grâce à cette fameuse agence des prisonniers de guerre et des civils. C'est pour ça que je trouvais important de le rappeler. Alors, une autre des fonctions de l'accueil à Genève, c'est les grands blessés. Et là, on a un train à Cornavin et on voit des infirmières, on sait que ce sont des infirmières de la Croix-Rouge. Là, le train est en train de partir. Celle-ci n'est pas très bonne, malheureusement. Je crois que c'est tout ce que j'ai pour l'instant. Oui, on verra après ça. Alors, je profite puisqu'on y est. La mise en place des dispositifs humanitaires a été extrêmement complexe et cette lettre-là est tout à fait intéressante. Elle vient de M. Studer à Berne. Dans son deuxième paragraphe, il dit « Je dirige à Berne, dans le quartier de Montbijou, un cercle de dames et de messieurs donnant une partie de leur temps libre et de leurs ressources aux œuvres philanthropiques. Mais attention, faisant surtout beaucoup de bien, il souligne, en secret. » Et ça, c'est typique de la démarche de la philanthropie de cette époque-là, ou des activités charitables, caritatives, je ne sais pas comment on dirait, de la solidarité aujourd'hui. C'est que, un, ce sont des gens qui ont du temps, ce sont des gens qui ont de l'argent, et ils n'ont pas de subside de l'État ou de quoi que ce soit, ils mettent de leur poche. Le comité international, pendant ces 20 ou 30 premières années, a fonctionné uniquement avec les ressources personnelles de ses membres. Mais alors, le « en secret » est pour moi mais absolument caractéristique, souligné. C'est-à-dire qu'on donne un coup de main volontiers, mais il ne faut pas qu'on parle de nous, il ne faut pas qu'on sache qu'on l'a fait. C'est magnifique en termes de discrétion. Pour un historien, c'est un désastre, parce qu'on n'a quasiment pas d'informations. Alors, là, la lettre est adressée à Rappard, on est en 1915, en août, 30 août. Et alors, là, c'est assez émouvant, parce que regardez le document qui suit. Alors ici, on est, c'est donc maintenant, on a créé à Berne, en collaboration avec le CICR, donc un Ermittlungsbüro pour les prisonniers de guerre. Et alors, ce même M. Studer écrit sur un papier en tête du CICR, donc, permettez-moi, monsieur, de vous exprimer aussi tout le regret que j'ai eu des malentendus qui se sont produits entre Genève et Berne. Ils sont dus, etc., etc., etc. Et qu'est-ce qu'il fait? Il renvoie à Genève tous leurs dossiers de prisonniers, tout leur travail. Et ça, pour moi, c'est un document typique aussi de la difficulté des dispositifs humanitaires. C'est-à-dire qu'on a vu partout surgir des bonnes volontés et c'était tellement compliqué et au point de vue juridique tellement délicat qu'à un certain nombre d'endroits, c'est un échec. En lisant la correspondance privée de Gustave Adore, je découvre aussi qu'il doit aller spécialement à Paris pour mettre de l'ordre dans la commission française qui s'occupe des prisonniers de guerre, qui ont entassé des centaines de paquets de lettres qui sont restés bloqués. Alors que, naturellement, que si les lettres sont bloquées, l'Allemagne elle-même va refuser d'apporter de l'aide. Puis c'est toujours une réciprocité. On ne se fait pas de cadeau en belligérant. Et donc, une des activités importantes du CICR, c'était de garder la ligne. Hein? Et puis, quand on voyait que ça ne jouait pas, de casser et de rassembler de nouveau les forces. On en parle peu, mais pour moi, c'est une activité intéressante qui est manifestement prouvée par un document de ce genre. Ça, on y arrive dans un instant. Alors, donc pour les civils, quelle est l'activité qui va se dérouler en leur faveur. Alors, naturellement, on a l'accueil, on a l'hébergement, on a les premières mesures sanitaires, c'est évident. On a des soucis de maladies contagieuses, n'est-ce pas? On est forcé d'être très attentif. On ne sait pas encore très bien soigner la tuberculose, par exemple. Et donc, on a une fonction sanitaire. Là, la Croix-Rouge genevoise entre en action, elle est très efficace. Mais on a aussi le... Bon, on ne sait pas si c'était l'activité principale, mais c'est celle qui a laissé le plus de traces. Toute cette activité de correspondance. C'est-à-dire, ces gens, quand ils arrivent, ils ont besoin de pouvoir entrer en contact avec le reste de leur famille. Alors, il y a cette démarche qui... aujourd'hui, on ouvre son iPhone, on téléphone, on regarde la télévision, on a WhatsApp, on a Viber, on a tout ce qu'on veut comme télécommunication. À l'époque, il n'y avait rien du tout. Donc, l'agence de Genève, c'est vraiment l'espoir de ces gens, de pouvoir entrer en contact avec leurs familles qui sont restées dans les zones occupées ou avec l'ennemi pour savoir si le soldat de la famille qui a disparu est toujours en vie, où il est, etc. Alors on a cette activité de recherche qui est extrêmement importante et vraiment fastidieuse. Il y a des millions de fiches. Et là aussi, je vous recommande de visiter le Musée international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, qui est extrêmement intéressante, et où on a mis en évidence l'agence des prisonniers de guerre de 14 avec les fiches, avec toute une série de simulations. Vous pouvez aussi faire des recherches, etc. Et on voit qu'il y a eu en quantité et en qualité un service tout à fait extraordinaire. Et puis alors, on a quand même la possibilité ensuite d'envoyer des paquets ou d'envoyer de l'argent. Et de nouveau, les familles envoient à Genève de l'argent, des paquets, et puis dès qu'on sait que le fils, le frère, etc. est prisonnier, je ne sais pas où, en Poméranie, et ensuite le CICR envoie l'argent ou les paquets à la Croix-Rouge allemande qui elle-même va faire la distribution. Et là, d'habitude, les belligérants sont assez fair-play. Mais de nouveau, c'est la question de réciprocité. Parce que ensuite, le prisonnier qui a reçu un paquet, il renvoie un message en disant « paquet bien reçu, merci saucisson ». Et puis, Genève reçoit ce mot-là et ce mot repart en France ou en Belgique. Je n'ai pas besoin de vous parler de toutes les négociations qu'il a fallu établir aussi pour obtenir la franchise postale. Et puis même simplement le rétablissement de services postaux. Les Allemands, par exemple, en Belgique, avaient décidé plus de poste. Pour les Belges, on n'écrivait plus et on ne recevait plus. Et là, il y a eu toute une négociation du comité international pour... etc. Une autre activité pour les civils, c'est de retrouver des attestations d'état civil. Vous avez tout à coup une naissance d'une femme, une Belge, qui accouche à Genève. Il faut qu'elle puisse prouver son identité, aller savoir si elle a pu prendre ses papiers. Alors, ou bien les assurances. Vous avez quelqu'un avait conclu une assurance, il veut réclamer des prestations en assurance, mais il doit prouver qu'il est monsieur X ou madame Y. Et de nouveau, ce sont des recherches qui doivent se faire dans le pays d'origine, aux états civils, etc. Donc il y a un nombre de prestations qui nous paraissent basiques, mais qui chaque fois supposent à la fois du professionnalisme et un grand dévouement. Et tous ces gens sont bénévoles à l'agence. Le rapatriement des enfants, ça nous émeut particulièrement, mais on a Stefan Zweig, le célèbre écrivain, a écrit un petit livre au cœur de l'Europe. Et il décrit, parce qu'il y a travaillé un moment, il décrit le travail de l'agence. Et à un moment, il s'est renseigné sur le cas d'une fillette belge qui s'était trouvée au milieu de la rue, je ne sais pas dans quelle localité belge, sans plus de famille du tout. Alors, des voisins écrivent au CICR et on raconte les étapes. Il y a 78 pièces pour retrouver le père et la mère. Mais ils ont réussi. On ne réussit pas tout le temps, mais là, ils ont réussi. Et ça, dans l'opinion publique, ce sont des prestations qui sont extrêmement appréciées, qui d'ailleurs sont appréciables, mais sont spectaculaires en même temps. Donc, par rapport aux civils, cette agence des prisonniers de guerre section civile, qui était donc une création tout à fait nouvelle, ouvre la Croix-Rouge internationale sur un champ d'activité qui va devenir après son champ d'activité principal, c'est-à-dire l'aide humanitaire aux civils. Et on sait par exemple que rien que pour les pays occidentaux en guerre, donc France, Belgique, Grande-Bretagne, Italie d'un côté, Allemagne, Autriche, Hongrie de l'autre, on a 300 000 fiches qui concernent que des civils. Hein. Et c'est chaque fois des fiches en carton, vous pouvez voir au musée, et elles sont écrites à la main avec beaucoup de soin. Alors, passons maintenant à un bref survol sur l'aide en Suisse. Alors, ce n'est pas du tout mon domaine, je n'ai pas trouvé d'ouvrage qui parle de l'aide des civils réfugiés en Suisse, mais ce qui m'a frappé en sondant les archives du Comité international de la Croix-Rouge, ou alors vous avez des blocs de correspondance, c'est hallucinant le nombre de documents qui ont été conservés par le CICR, mais malheureusement que ceux qui concernaient le CICR. Donc c'est très technique, mais on voit dans la correspondance, il y a dès août 1914, que d'un côté, il n'y a pas d'institution ni de service officiel qui va s'occuper du cas des réfugiés. Et puis d'un autre côté, on voit qu'il y a un foisonnement de petites sociétés, d'organismes, de comités, d'œuvres qui surgissent. Et le CICR, pour le mois d'août, il est en contact avec une agence belge de renseignement, avec un comité médical belge, avec un comité de secours aux réfugiés belges. On a un comité fribourgeois pour la Belgique. On a des œuvres pour la guerre pro-captivis, pour les prisonniers, qui est à Berne. On a une association des propriétaires d'hôtels qui crée une œuvre d'hospitalisation en faveur des infirmières en Suisse. Et ils avaient vu que, ils avaient entendu dire que les infirmières, notamment Croix-Rouge, qui étaient dans les hôpitaux de guerre, étaient surmenées et qu'ils proposaient donc d'offrir gratuitement un séjour de 2-3 mois en Suisse à ces infirmières pour qu'elles puissent se reposer, se refaire et pour après repartir. Ce qui est intéressant, c'est que, c'est le CICR qui donne son aval à ce projet, puis ensuite le diffuse aux sociétés nationales, qui elles-mêmes essayent de savoir s'il y a un écho. Eh bien, il n'y a que 3 pays qui répondent favorablement. C'est assez étonnant. Et alors, là, on a une ou deux photos assez émouvantes où le Comité international de la Croix-Rouge reçoit les infirmières françaises et puis comme on fait partie de la bonne société, on les reçoit chez soi, en grande tenue. On a une photo, les Adore avaient une propriété à Haute-Rive qui s'est vendue entre 80 et 100 millions tout récemment à je ne sais pas quel dynaste russe. Eh bien, cette propriété d'Haute-Rive, un très beau lieu, très aristocratique. Alors, on a une photo avec toutes les infirmières qui sont là, et puis on leur sert le thé avec, naturellement, des dames au grand chapeau, grande robe. C'est vraiment une vision de la philanthropie qui, aujourd'hui, nous fait sourire. Mais enfin, on se donnait quand même de la peine. Et puis, ces infirmières-là, on les recevait dans les familles, on leur permettait de se refaire une santé, puis après, elles repartaient au front. Vous imaginez ce que devaient voir ces femmes dans les hôpitaux de guerre, ça devait être assez épouvantable. Donc, pour cet accueil des réfugiés en Suisse, moi je dirais que tout est à faire, mais en tout cas, on voit qu'il y a eu un élan de la population, mais surtout de groupes de pression ou de personnes qui faisaient partie d'un club, d'une société, etc., tout à fait étonnant et admirable. Je terminerai par quelques mots pour Nancy, donc pour vous rappeler qu'en 1914, nous sommes un petit village, et d'après ce que j'ai pu voir et ce que Madame Dier m'a dit, il n'y a pas d'institution humanitaire à Nancy à cette époque, que ce soit un hôpital, un hospice, une section de la Croix-Rouge, des Samaritains. Je ne crois pas qu'il existe d'organisme de ce genre, mais si Madame Lorenzini a une autre connaissance, elle me corrigera tout de suite. Oui, alors qu'on crée au début de la guerre.
Et notamment par le biais des paroisses, des associations de secours,
même avant la guerre. Des asiles, hein.
Voilà, où on accueillait en fait des enfants qui venaient ici se faire une santé. Et tout ça, c'était déjà avant la guerre, hein, c'était déjà traditionnel de l'Ancien. Voilà.
Merci. Donc là, j'ai lu dans les procès-verbaux du conseil municipal que le 23 septembre 14, donc c'est un peu plus d'un mois après le début de la guerre, que le maire, Louis Bertrand, il sera maire plus de 20 ans, donc c'est une personnalité majeure, il commente la guerre en annonçant donc les graves perturbations dues à la mobilisation générale et qu'on a organisé une garde civique, hein, donc on est quand même un petit peu inquiet. Et puis, il annonce qu'un comité de dames s'est constitué pour venir en aide aux familles nécessiteuses. Et puis, on crée une commission chargée d'examiner les mesures que la commune pourrait prendre pour atténuer les conséquences du chômage. Et en plus de ça, il y a une commission centrale de secours qui agit pendant la guerre qui va donc récolter, elle lance un appel. On est toujours en septembre. Elle lance un appel aux habitants de la commune pour récolter des légumes de conserve tels que pommes de terre, racines et raves. Racines et raves. J'aimerais bien savoir quelles étaient les racines. Mais vous voyez, donc on a un élan de solidarité, mais la première solidarité, elle est communale. C'est pour les familles qui sont frappées par le chômage de l'homme principalement ou par la mobilisation. Alors on commence quelque chose qui est tout à fait intéressant et important, c'est la distribution de soupe. Hein, le comité de dames est chargé de distribuer des soupes, du pain, du lait. Donc on est vraiment dans une... Et ça, c'est en premier pour la population locale. Alors on aura ensuite une évocation de l'aide aux réfugiés belges. Alors effectivement, on a deux éléments qui sont assez intéressants. Dans la séance du 29 décembre 1914, je cite, « Monsieur Marignac demande qu'on fasse faire une enquête sur les procédures de garde du Grand Nancy à l'occasion de l'arrivée de quelques réfugiés belges dans le village. » Donc Marignac demande qu'on fasse une enquête sur les procédés de garde de réfugiés belges, quelques réfugiés belges. Donc ça nous donne un élément quantitatif, mais ça nous dit qu'il y en a eu. Et réponse, Monsieur le maire donne des explications dont Monsieur Marignac se déclare satisfait. C'est bien dommage qu'on n'ait pas les explications. Hein, vraiment, alors là, d'habitude, quand on donne ce genre de phrase, c'est qu'on n'a pas voulu trop se disputer sur le sujet. Mais le 13 janvier, donc suivant, on est en janvier 15, on apprend que M. et Mme Grossens et M. Mesaert, réfugiés, je cite, ont été correctement traités. Et on n'en dit pas plus. Mais donc, ça signifie que, un, il y avait des réfugiés belges, dans l'exposition, on en a aussi la confirmation, que deux, ils étaient surveillés, hein, puisqu'il y avait des contrôles, et puis trois, il y avait des contrôles de contrôle, puisque ce monsieur Marignac, probablement qu'il avait dû entendre que ça avait été un peu trop musclé, ou je ne sais pas quoi, et donc on est attentif. C'est malheureux qu'on n'en dise pas plus, et moi je me réjouis de trouver d'autres traces pour pouvoir vous en apporter plus. Alors, on a grâce à l'Association des intérêts de Nancy, dont Mme Lorenzini a exposé quelques documents là, et qui est une source d'informations particulièrement riche, on apprend qu'il y a eu il y a une conférence, il y en a même eu deux, semble-t-il, avec projection de photos inédites sur la région de l'Isère. Donc c'est bien de la... on pourrait dire la promotion, la propagande sur la situation tragique des populations belges pour lever une collecte. Et on apprend qu'une collecte a rapporté 70 francs et 30 centimes, qui est envoyée à M. Kupfer-Rath, qui est le président de l'Union patriotique pour les prisonniers et les réfugiés belges, dont le siège est en ville de Genève. Et ce qu'il y a d'amusant, c'est que dans les archives de l'Association des intérêts de Nancy, on a encore conservé le récépissé postal, des 70 francs et 30 centimes. Mais voyez, on a réuni 70 francs et 30 centimes, ce qui pour nous est une somme vraiment modique, mais qui, je pense, devait représenter beaucoup à l'époque. Puis alors, on a un texte, un extrait de la conférence de M. Détiola à l'occasion du 1er août 1915. Vous avez l'intégrale de très nombreux passages dans l'exposition, mais c'est assez émouvant et en même temps, ça nous donne une piste, mais malheureusement, il faudra aller plus loin. Il dit... Ce salut, c'est le salut de la Suisse qui a échappé à la guerre jusqu'en août 1915. Alors, ce salut, nous l'envoyons encore au-delà des frontières à ceux qui ont vécu à nos côtés, qui ont été nos voisins, nos collègues, nos amis, et qui, sur des lieux de carnage, défendent l'honneur et le drapeau de leur pays. Ce salut ému. Nous l'envoyons à travers l'espace aux vaillants défenseurs de la Belgique, poignardés dans l'ombre en un criminel attentat contre un petit peuple. Nous exprimons à la colonie belge de Nancy notre pieux respect dans la dévastation qui frappe injustement leur malheureuse patrie. On a donc une colonie belge à Nancy. J'aimerais bien savoir... en savoir plus. Mais là, peut-être que d'autres sources nous aideront. Donc, en conclusion, on peut dire que l'aide aux réfugiés en Suisse, elle est mal connue, elle est mal étudiée, et la documentation est très difficile à réunir parce qu'elle est disparate, et puis souvent, on a aidé en secret. Ça, c'est un point. Deuxièmement, ce qui me frappe, c'est qu'en 14, la Suisse n'est pas prête pour une fonction d'accueil et de soutien à des populations en désespoir, qui doivent se réfugier. D'un côté, la population suisse est appauvrie et très vite par la guerre, et d'un autre côté, aucun dispositif humanitaire n'existe pour ce type de situation à l'époque, et les mentalités devront complètement évoluer. Et là, c'est intéressant parce qu'on voit que immédiatement, dans l'opinion publique, dans les cercles les plus vastes, on est ému, notamment par le cas de la Belgique. Et pourquoi le cas de la Belgique? Parce que c'est un petit pays, c'est un pays neutre, qui a été violé, dont la neutralité a été violée par une armée implacable. Et on a, entre Genève et la Belgique, des liens proches. On a des familles qui sont genevoises qui sont établies en Belgique, et la Belgique est aussi une terre de mission, notamment pour l'Église protestante. Alors, on a là un certain nombre de contacts directs qui font qu'on a peut-être été plus sensible au cas belge qu'à d'autres. Et je terminerai en rappelant que l'accueil des réfugiés est un enrichissement fantastique pour un pays comme le nôtre. En faisant un petit rapprochement avec les fondateurs du comité international, Henri Dunant, Gustave Moynier, Théodore Monnoir, Louis Appiat, le général Dufour appartiennent tous à des familles du refuge. les quatre premiers, le refuge Huguenot, et le général Dufour au refuge politique. Il est né, Dufour est né à Constance en Allemagne, parce que ses parents avaient dû, être des réfugiés politiques. Ils avaient dû quitter Genève en 1782. Donc, cette situation des afflux de réfugiés que nous vit, que l'Europe entière vit maintenant, c'est une situation qui nous rappelle qu'on a une longue tradition et que l'accueil est non seulement un geste humanitaire, mais aussi un immense enrichissement pour les communautés qui le pratiquent. Je vous remercie. J'espère qu'il y a des questions.
On n'a pas le micro, mais on est entre nous.
Oui.
Oui, madame.
Oui, monsieur Durand ne nous a pas encore beaucoup parlé de l'accueil et des réfugiés aux frontières du canton.
Alors,
et là, il doit y avoir énormément d'histoire là autour avec des réfugiés, avec la façon dont on a traité les gens qui arrivaient, pour les donner à droite, à gauche, les faire...
Alors, à ma connaissance, mais vraiment, elle est très incomplète, la majeure partie des réfugiés sont arrivés par le train. Et ce sont des convois qui sont organisés par la France et qui arrive à Cornavin.
La frontière, Genève,
bon, je pense que Bâle a dû jouer le même rôle, etc. Mais en tout cas, pour Genève, les réfugiés, ils arrivent. On n'a pas de réfugiés clandestins. Il n'y a pas la situation d'une Suisse qui est assiégée par une puissance belligérante, comme ce fut le cas depuis 1940. Je ne crois pas qu'il y ait eu le problème d'un contrôle avec ces horribles tampons du Ige pour juifs, etc. Je crois que cette problématique n'existe pas en 14. Mais je peux me tromper. J'ai eu l'impression que là, c'était des réfugiés qui étaient annoncés. Est-ce qu'il y a eu des négociations entre le gouvernement français et puis la Suisse? Est-ce que c'est des trains qui sont arrivés? Je ne sais pas. C'est une question très intéressante, mais je n'ai pas eu de traces. Et toi qui as étudié les documents diplomatiques.
C'est-à-dire, je pense qu'on parle, que j'apprécie dans ton exposé, c'est qu'évidemment, c'est un récit où il faut éviter l'anachronisme. On projette beaucoup de vécu, de tout ce qu'on a lu sur la Deuxième Guerre mondiale, sur la Première. On en est loin. Effectivement, c'est l'histoire de frontières. Elles sont bouclées de la Deuxième Guerre mondiale parce qu'on se méfie des réfugiés. Et ce sentiment n'existe absolument pas en 14, du fait qu'en plus, les réfugiés potentiels qui arrivent, ce sont des gens proches, des amis. On n'est pas toute la Suisse romande, fanatiquement pro-français. Et puis d'autre côté de la Sarine, on est fanatiquement pro-allemand. Donc, s'il y avait des réfugiés... ennemis, évidemment, c'est une autre, ce serait une autre affaire. Ceux qui arrivent ici ne sont pas des ennemis. Donc, ce sont des gens proches. Ça, c'est un premier point. Et effectivement, ce que j'aime bien dans ton récit aussi, c'est le concret. C'est l'extrême pauvreté des moyens. Et ça s'explique d'abord. Il faut savoir que avant 14, le trend, la tendance dominante, c'était la paix. On croyait à la paix. On avait des conférences mondiales de la paix qui ont eu lieu juste avant la guerre. La troisième conférence de la paix aurait dû avoir lieu en 1913. Elle a été renvoyée déjà à cause des conflits balkaniques. Donc on essayait de gérer un monde de paix. Personne ne se préparait sérieusement à la guerre. Il y a eu en Allemagne des grands projets... mais dans un pays comme la Suisse, on avait quelques exercices, notre armée n'était pas dissuasive, contrairement à ce qu'on pourrait s'imaginer, il y avait très peu de moyens, les budgets militaires étaient extrêmement limités, l'administration. Moi, j'ai toujours expliqué, je me suis occupé de la diplomatie. Je vais simplement expliquer aux futurs diplomates qu'en fait, il y avait plus de diplomates à la légation de Suisse à Paris. On n'a même pas une ambassade, c'était une légation. On en avait à peu près 12 à 14 fonctionnaires diplomates à Paris, alors qu'à Berne, il n'y avait presque personne. Pendant des décennies, il y avait le secrétaire. Alors, il n'y avait pas de femme secrétaire, c'était le chancelier, avec un adjoint, et ça a duré des décennies comme ça, et ça commence vers la fin du 19e siècle. Donc, l'État était très peu doté pour agir. Donc, on comptait, c'était un pays où les citoyens voulaient être libres, on n'avait pas besoin de baillis. Hein. Les Suisses refusaient effectivement d'avoir une administration centrale à la française. De ce fait, tout s'improvise, et effectivement, les moyens sont extrêmement limités. Concernant ce que tu as dit, effectivement, sur le CICR, ce manque de moyens s'explique aussi de ce fait-là. On ne croyait pas à des conflits. Pendant des décennies, au fond, on se tournait les pouces, comme on pouvait dire. Ça fonctionnait juridiquement, à cause de 2-3 conflits qu'il y avait au 19e siècle. On avait vu des horreurs, et puis la guerre civile aux États-Unis. On a vu des horreurs, des gens mourir sur des champs de bataille. Ça a ému certains esprits. Et puis, on a essayé d'imaginer des conventions qui permettraient d'obliger les belligérants de traiter humainement les combattants. Hein, les combattants, on ne pensait pas du tout encore aux populations civiles. Et puis ensuite, depuis 1870, en Europe, il n'y avait plus de guerre. Il a fallu attendre les guerres balkaniques, qui étaient quand même assez
lointaines. Oui, oui.
Et avec d'énormes horreurs, ces guerres balkaniques, on a des images d'ailleurs au CICR, ça montre l'atrocité de ce qui se pratiquait là-bas dans les guerres balkaniques en 1912-1913, et au fond, on ne pensait pas qu'un conflit qui viendrait même en grande puissance durerait des années. C'est ça qui a surpris. Alors, ce qui est remarquable dans ce que tu as dit, c'est qu'effectivement, à Genève, on n'a pas attendu en disant après tout, cette guerre va durer quelques semaines. La propagande allemande, où tout le monde pensait que les Allemands allaient gagner rapidement cette guerre, tous les experts de l'époque disaient sur l'Allemagne. C'est-à-dire c'était la grande puissance technologique de l'époque, les Genevois même élites allaient faire des études en Allemagne, enfin bref, l'Allemagne avait une excellente réputation, et si elle revenait à faire la guerre, elle allait l'emporter haut la main. Donc ça ne s'est pas passé du tout comme cela, et le mérite effectivement de nos responsables ici à Genève, c'est d'avoir pris tout de suite des mesures, hein, déjà en 14, en été 14, d'avoir pris des mesures après tout, faisons appliquer nos obligations.
Oui.
Mais il n'y avait pas de moyens, il n'y avait pas de budget, il n'y avait pas d'argent. Et effectivement, aujourd'hui, est-ce qu'on trouverait 300 volontaires à Genève pour venir maintenant aider les populations syriennes? Là, on a trouvé quand même des centaines de personnes dans des conditions, effectivement, comme tu as dit, tout sauf le confort. Hein. Tout de suite, on est à l'automne quand même, c'est l'hiver, il faut passer. Effectivement, on travaille dans des conditions extrêmement difficiles. Alors, bon, on ne veut pas... Mais ce que je retiens, moi personnellement, je l'ai beaucoup dit aussi quand j'avais l'occasion de parler de ces questions, parce que vous savez que c'est le centenaire du premier conflit mondial, et dans le milieu académique, il y a plein de colloques. On en a eu l'année dernière, on en a eu cette année, on en aura encore l'année prochaine, chaque année, on aura des colloques qui permettent d'ailleurs d'aborder ces questions. C'est la première fois, au fond, qu'on commence à traiter de façon sérieuse l'aspect humanitaire. J'ai assisté déjà à 2-3 de ces colloques, où on a découvert beaucoup de choses, y compris sur la Suisse, n'est-ce pas, ces associations dont tu parles, de secours, c'est un peu par amitié, les comités de soutien aux Belges, il y en a à Genève, il y en a à Lausanne, il y en a un peu partout, le comité aux Serbes, voilà, il y a des comités très sélectifs par rapport aux affinités qui se trouvent dans l'opinion publique. Et alors maintenant, on commence à avoir des études intéressantes. On trouve des documents par-ci, par-là, qui permettent de mieux étoffer la connaissance, effectivement, de ces vécus du premier conflit mondial. Mais en général, pour l'agence, je crois qu'on n'a pas conscience ici à Genève de l'importance de cette agence pour le rayonnement de Genève dans le monde. Personnellement, j'ai affirmé à plusieurs reprises, et ensuite vraiment convaincu, que si on a quand même réussi à avoir le siège de la SDN, de devenir ce qu'on appelle une capitale mondiale, et qu'est-ce qu'on en profite aujourd'hui encore, c'est quand même
grâce à l'agence.
Surtout à l'agence. Pourquoi ? Ce que j'expliquais souvent, il serait difficile de trouver un village de France, d'Allemagne, de n'importe quel pays à la limite, sans qu'il n'ait connu le nom de Genève, et de recevoir une lettre avec de Genève, c'était un élément de lumière. Peut-être cruel, parce qu'on annonçait peut-être un décès, mais surtout une information. Je vais bien, j'ai reçu votre message, le petit cadeau pour Noël, etc. Ces choses-là, dans ce contexte où il n'y avait pas de médias, a fait que le nom de Genève a résonné, même au fin fond des États-Unis, mais enfin pour l'Empire britannique, ça allait loin dans le monde, quand une lettre arrivait même des mois après, il faut voir la lenteur aussi des courriers de l'époque, ça provoquait une connaissance, même pas géographique, parce que les gens ne pouvaient pas nécessairement avoir la notion géographique où se trouve Genève, mais en France, beaucoup de Français encore aujourd'hui, parfois, on dit, ben, à Genève, oui, où vous êtes exactement, parfois qu'on est dans les montagnes, c'est surprenant. Et au fond, quand il a fallu discuter du capital de la paix, si on présentait Genève, c'est un nom qui résonnait dans les cœurs des gens, et le président des États-Unis, Wilson, qui était très sensible à ces aspects-là, d'être que son message soit populaire, c'est-à-dire soit accueilli par les peuples, et non simplement par les professeurs, les élites et les politiciens, il pensait que Genève sonnait mieux que Lausanne.
Oui, c'est clair.
Ou que Bruxelles, qui était une ville martyre, certes, mais Genève était autre chose. Et alors ça, je pense qu'on le doit à cette agence,
oui.
Plus qu'au comité lui-même.
Oui. C'est bon.
Alors, ça, c'est quelque chose qui est très peu connu.
Et qui est sous-estimé.
Sous-estimé. Et ce que tu fais là, ce que tu nous as exposé, me paraît extrêmement important de pouvoir le diffuser et d'en prendre conscience. Et comme je le dis souvent, les Suisses qui sont maintenant pratiquement la nation la plus riche au monde, la plus heureuse d'après certains livres récents, ignorent effectivement la simplicité dans laquelle vivaient souvent nos ancêtres.
Voilà. Et le poids de l'héritage à transmettre. Comme confirmation aussi, le prix Nobel de la paix qui très vite a eu un retentissement mondial, eh bien, il n'est pas attribué pendant la Première Guerre mondiale. Sauf en 1917, et qui est-ce qu'il reçoit ? C'est le Comité international de la Croix-Rouge pour son travail par l'Agence des prisonniers de guerre. Donc, c'est cette image positive de Genève, une image de Genève avec un horizon planétaire, mais une image positive. Hiroshima, on connaît le nom d'Hiroshima un peu partout sur la planète, mais ce n'est pas pour sourire. C'est un désastre. Tandis que Genève, c'est, comme tu le dis, c'est une lueur qui peut être cruelle, mais c'est une lueur.
Et sur le plan diplomatique, j'étais récemment à un colloque que Saint-Siège a organisé aussi, parce que Saint-Siège a eu une action très importante,
oui.
Et notamment à cause des populations que tu évoquais, enfin, des populations occupés, catholiques, le problème de la morale, les papas absents, enfin bref, ils harcelaient l'Allemagne pour essayer de libérer les pères de famille, enfin, etc. Et puis de porter secours aux populations. Et in fine, le Saint-Siège a fait une grande action diplomatique dans ce sens, il préparait le terrain, mais quand on va dans le détail, ensuite, il suffit de voir maintenant des publications, sorties des publications, pour conduire l'action concrète, il fallait passer par Genève, par l'agence. Et on demande à la Suisse de soutenir, etc. Alors bon, ça, il y a d'autres aspects de toute cette affaire, le rôle de Berne, effectivement, au niveau des négociations, mais c'est plus tard, c'est pas le début de la guerre, pour l'échange des pères de famille, l'échange des grands blessés, c'est des négociations qui se mènent à Berne, et c'est un peu une rivalité entre Berne et Genève, entre le CICR et le Conseil fédéral, qui se greffent là-dessus. 1917, déjà 1918, et ça c'est une autre perspective.
Il y a ici dans une vitrine des lettres reçues à Florimont, à l'Institut Florimont, puisque c'était des pères français. Donc pour prendre, je pense, des nouvelles de leur famille, ils devaient recevoir des lettres via justement le fils Lasse.
contrôler.
Et pour en venir à l'association des intérêts du monde aussi, ce qui est intéressant, c'est que donc, cette association, donc, vous l'avez dit, c'était un village aussi. Hein, donc cette association pallie un peu au manquement de l'administration qui, comme vous l'avez dit, était très pauvre, avait très peu de moyens. Il y avait un secrétaire général et peut-être une secrétaire qui voulait de temps en temps l'aider, mais l'administration était très pauvre. Et face à des dépenses comme celles engendrées justement par les guerres, et tant la première guerre que la deuxième, parce qu'on retrouve ça dans les archives, c'est très clair, et bien des associations comme l'association des intérêts du monde aussi étaient d'une grande aide. Donc que faisait l'association? Elle réparait les routes, elle goudronnait les routes qui étaient encore des routes poussiéreuses. Hein,
et
le tram passait, levait toute la poussière, les dames étaient très fâchées de voir leur lessive poussiéreuse. Donc, récolter des fonds. Et comment le faisait-il? Alors, on l'apprend là justement dans ses comptes rendus, par la vente de poissons. Il vendait du poisson à l'entrée du village du Rondancy. Et pendant la Première Guerre mondiale, cette vente de poissons a continué, mais justement la somme récoltée a été adressée aux réfugiés belges. Donc on a cessé en fait de faire des projets à Nancy même, tous les projets ont été paralysés, les réverbères, les bancs, des choses qu'on voulait installer, ont été stoppés, arrêtés pour aider les réfugiés belges, mais aussi les familles nécessiteuses, les familles dont les maris étaient partis à la guerre. Donc voilà ce genre d'organisation qui maintenant prête à sourire, on dit que ça, quoi ça c'est une association d'intérêt, eh bien il y avait des formes nombreuses à Genève, mais il n'y avait pas que le moins aussi, il y avait aussi le petit aussi la même chose, exactement la même, et d'autres, et elle formait une espèce de fédération d'associations d'intérêt qui ont vraiment prouvé leur utilité durant les guerres mondiales. C'est pour ça que dans cette exposition, on avait envie un peu de les mettre à l'honneur, sortir de l'ombre.
Oui, oui, c'est important.
C'est très intéressant. Voilà, alors, je ne sais pas s'il y a encore des questions, je vous propose d'aller partager le verre de l'amitié.